C'est vraiment une image extraordinaire. Miscoué avec moi ensemble, Bouddha ensemble, c'est-à-dire, moi, il est traité comme un Bouddha maintenant, un Bouddha contemporain.
Si on regarde la tradition, les grands héros, empereurs, des grands généraux, etc., ils sont devenus des dieux.
La Chine à l'ombre de Mao. Le Mao business.
Il a tué beaucoup de gens, mais quand même, il est fait vivre encore. Regardez, grâce à toute cette industrie.
La pente avec
aussi.
Par
Alain
Lefkowitz. Alain Lefkowitz.
Chinois, enrichissez-vous. C'est avec ce slogan presque publicitaire que Deng Xiaoping, successeur de Mao Tse-tung et de Hua Guofeng, lançait la Chine sur le chemin des réformes économiques au début des années 90. Après le cataclysme du printemps de Pékin, la fin des illusions et des aspirations démocratiques, les enfants du Fils du Ciel pouvaient désormais s'adonner sans entrave aux affaires. Le capitalisme était réhabilité, tandis que le renminbi, littéralement la monnaie du peuple, devenait roi. La figure du défunt grand timonier, fondement même de la légitimité politique du Parti communiste chinois, estampillait les billets de banque et incarnait la marque de fabrique d'un peuple et d'une histoire très officielle, celle du Made in China. Tant et si bien que trois décennies plus tard, sur l'immense marché intérieur de la seconde puissance économique mondiale, Mao, le maoïsme ainsi que ses funestes errements sont devenus la source d'un business lucratif et juteux. Mao, ça fait vendre. De plus en plus de marques, d'enseignes lumineuses des grandes mégapoles de la côte Est, arborent le visage de Mao, devenu le garant d'un bon support publicitaire. Du vrai faux qui fait la fortune d'entreprises entières vouées à la refabrication du passé glorieux de la Chine maoïste. Briquet Mao, sac Mao, trousse Mao, porte-cigarette Mao, veste et manteau Mao, coussin Mao et poupée en tissu Mao, achalandent les boutiques du pays. Autre mœurs, autre secteur, les artistes contemporains, et parmi eux, certains des plus cotés du moment sur les marchés internationaux, désacralisent. Politiquement engagés et spectateurs d'une Chine post-maoïste, actrice phare d'une mondialisation à marche forcée, ils utilisent au mépris du danger l'image de Mao et de ses avatars synchroniques pour revisiter et critiquer tant les erreurs sanglantes du maoïsme que son instigateur en chef lui-même. Une gageure dans une Chine qui n'a pas démaoïsé et qui a définitivement gravé dans le marbre sa vérité historique. Mao, c'est 70% de bien et 30% de mal. Alors dans le camp des plus opiniâtres admirateurs du président Mao, les critiques fusent. Ils font du fric tout en critiquant un système qui leur permet de faire du fric. Leurs œuvres jugées iconoclastes sont interdites en Chine tandis que l'Occident se les arrache. Car au-delà de toute considération mercantile, leur création symbolise l'introspection nécessaire mais impossible d'une société qui, au cours de ces 60 dernières années, s'est compromise. Un art psychanalytique et politique que nous fait découvrir un des frères Gao, Gao Tian, qui nous ouvre les portes de son showroom situé dans une usine à l'architecture Bauhaus, devenu le centre de l'art contemporain chinois, la Friche 798, dans le quartier de Dashanze, à Pékin.
And on the right hand side of the entrance, we can see a set of the statues represents the name.
Juste à droite de l'entrée, vous pouvez voir une œuvre qui s'appelle La Condamnation Jésus-Christ.
This piece was made in 2009.
Je l'ai réalisé en 2009, à l'époque où l'on célébrait le 60e anniversaire du Parti communiste chinois. À travers cette sculpture, j'ai voulu qu'on se souvienne de tous ces innocents qui sont morts sous le régime socialiste.
Donc là, on est devant une œuvre d'art où il y a sept statues de Mao. Mao tenant dans ses mains un fusil d'assaut muni d'une baïonnette et mettant en joue Jésus.
Dans notre création de cette œuvre, c'est-à-dire que
À l'origine, nous voulions mettre à la place du Christ Lin Zhao, une étudiante de l'université de Pékin qui a été arrêtée parce qu'elle a critiqué Mao et qui a été fusillée. Durant sa détention en prison, elle s'est convertie au christianisme. C'est pour cette raison que nous avons utilisé le Christ à la place de Lin Zhao, pour donner à l'œuvre une dimension plus universelle. Jésus-Christ incarnant la bonté et Mao le mal. Pour cette œuvre, dans laquelle Mao exécute le Christ, nous nous sommes inspirés du tableau peint par le peintre français Manet, l'exécution de Maximilien. Il y a un personnage qui se tient derrière le peloton d'exécution et on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Est-il en train de se demander s'il doit tirer ou non, ou est-il simplement en train de recharger son fusil ?
Poursuivons dans votre showroom. Il y a une œuvre qui est quand même assez étonnante, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut parler de cette sculpture de Miss Mao, un peu particulière ?
Là, nous sommes dans la partie du showroom consacrée à une série de sculptures à taille humaine représentant Miss Mao, et notamment celle-là qui se trouve devant nous. Cette série a été créée pour amener dans un premier temps les Chinois à avoir une réflexion sur eux-mêmes, car nous avons été trop influencés par la propagande communiste. Et dans un second temps, pour désacraliser l'image de Mao. Sous ses airs d'homme sérieux et impassible, Mao était en fait un débauché dans sa vie privée. Mais avant tout, ce que nous avons voulu faire, c'est casser cette image d'un Mao divinisé.
Alors, on voit Miss Mao allongée sur le dos, les jambes écartées, une main sur son sexe, d'où sort une tête de dragon. Miss Mao de couleur or et un dragon rouge lui sort du sexe. C'est quoi la symbolique de ce dragon rouge qui sort du sexe de Miss Mao ?
D'après ce que j'ai lu dans la Bible, le dragon incarne Satan, le mal et la cupidité. Dans la culture traditionnelle chinoise, le dragon symbolise le désir de pouvoir absolu. Dans cette œuvre qui appartient à la série que nous avons faite sur Mao, nous revisitons ce qui est arrivé à la Chine depuis 1949. Mao a nié l'existence même de l'individu capable de penser par lui-même. Il l'a transformé en un être à la pensée politique totalement immature. Beaucoup de gens ne comprennent pas Miss Mao. Ils voient cette œuvre comme une moquerie à l'égard du président Mao. Mais Miss Mao se moque aussi de nous, de tous les Chinois. La première leçon que j'ai apprise à l'école, c'était que le président Mao vive 10 000 ans. La seconde, c'était que le Parti communiste vive 10 000 ans. C'est comme ça que la dictature formate et manipule les gens. Aujourd'hui encore, les Chinois ont une façon très immature d'appréhender la politique.
政治上在理性上非常的幼稚，就像一个儿童一样。 il faut la décrire, Miss Mao. Miss Mao, elle est représentée avec un nez qui ressemblerait à celui de Pinocchio. Et puis, elle a une poitrine monumentale avec des tétons qui ont la même forme que son nez, le nez de Pinocchio. Les oreilles ressemblent à celles de Satan.
Mao, c'est un Satan, c'est un Mao.
Qui est Satan?
He is a hero of truly epic stature, the warrior leader who has steered his great nation through the turbulent waters of the violent 20th century.
And I think that's very much a self-portrait. She said, I'm Mao's dog, right? When Mao asked me to bite, I bit.
Une histoire écrasée. Depuis un siècle de l'histoire est de vide. Il reste comment? 60 ans d'une histoire communiste, une histoire de Chine effacée. Il a qui?
Tsai Chung-wo a été condamné à l'exil il y a près de 25 ans pour avoir participé aux manifestations étudiantes de la place Tiananmen en 1989. Ancien jeune instruit, envoyé à la campagne pendant la révolution culturelle, ce professeur de philosophie vit aujourd'hui à Hong Kong, où il travaille pour le China Labour Bulletin, le bulletin des travailleurs chinois. Et c'est quotidiennement qu'il tente de défendre la masse des Chinois oppressés par un système arbitraire et corrompu, en œuvrant pour la création de syndicats libres et indépendants en Chine continentale.
Il avait le Chiang Kai-shek, mais c'est un réactionnaire. C'est pas bien, c'est un personnage. Yuan Shikai, qui est un des fondateurs de la République de Chine en 1911, mais qui était un personnage négatif aussi, il voulait restaurer la monarchie. Alors il reste que Sun Yat-sen, mais Sun Yat-sen qui a fait quoi? Qui a fait la révolution 1911, c'est loin, il n'a que lui. Qui n'a pas fait grand-chose non plus. La doctrine de Sun Yat-sen, tout cette démocratie, socialisme, nationalisme, trois doctrines de Sun Yat-sen étaient remplacées par le communisme, par le maoïsme. Il ne faut pas parler trop non plus. Oui. Donc, le Parti communiste, le gouvernement réussit à contrôler l'histoire, a réussi à faire un contrôle mémoire collectif, écrivain, philosophie, et que ça n'existe plus depuis 60 ans même. Il reste que Lu Xun. Ouais, les autres sont revenus, mais Mao est considéré comme aussi pour les Chinois, comme le grand poète, comme le grand philosophe. Même pour beaucoup de Français aussi, un maoïste, même demi-maoïste, qui pensait que Mao est un philosophe, très grand philosophe, très grand poète. Ouais, son poème n'est pas mal, mais pas superbe. C'est philosophie, mais écrit pas vraiment par lui. Essentiellement écrit par un philosophe marxiste des années 30, M. Ai Si-chi, qui est mort des années 60. Mais beaucoup de Chinois ne savaient pas ça. Pendant 60 ans de communiste, il n'y a rien de création philosophique. Création artiste assez mince aussi. Une littérature qui s'est développée seulement depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, tout cette vide, c'est aussi expliquer pourquoi tout cet objet de Mao pendant la révolution culturelle qui vraiment remplit une partie de marché de touristes. Quand l'histoire de... Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans l'histoire, il reste que ça.
Bonjour. 您的电话尚未开通国际及港澳台长途业务，请开通后。 You have not yet registered for direct dial long distance service for international calls or for calls to Taiwan.
Je peux vous demander pourquoi vous avez mis un portrait de Mao à votre rétroviseur? C'est une croyance nationale, vous savez. Plus de 80% des Chinois croient en Mao. Nous pensons qu'il est une étoile qui brille dans le ciel. Et que tous les 500 ans, il vient se réincarner dans notre monde. Il devient alors l'étoile impériale. Il est protégé par deux autres étoiles qui brillent autour de lui, celle de Chiang Kai-shek et celle de Sun Yat-sen, ses généraux. Quand j'étais petit, mon père connaissait un diseur de bonne aventure qui avait enterré le père de Mao dans un endroit sacré. C'est pour ça que Mao est devenu un empereur. Il est le premier empereur d'une nouvelle dynastie. Il est le fils du ciel dans la tradition chinoise. Il y a beaucoup de superstitions autour de lui. On raconte par exemple qu'un papillon volait autour du socle d'une statue de Mao quand tout à coup la lune et le soleil sont apparus. Il y a plein de phénomènes de ce genre. Cela dure depuis plus de deux générations. Peut-être les jeunes d'aujourd'hui l'aiment moins.
Son amour pour Mao, ça lui vient de sa famille ou tous les Chinois sont comme ça?
C'est national, je vous l'ai dit, mais dans certaines provinces, cette vénération est encore plus forte, comme ici, dans le Hunan. C'est le cas de mes parents, qui l'adorent plus que tout. Moi aussi, mais de manière plus rationnelle. Je suis capable de faire la part des choses entre les erreurs qu'il a commises et ce qu'il a fait de bien. Deng Xiaoping a dit, si nous devons juger Mao, c'est 70% de bien et 30% de mal. J'ai lu sur Internet que ses erreurs sont dues au grand bond en avant et à la révolution culturelle. Il a utilisé le pouvoir du petit peuple pour éliminer ce qu'il pensait être ses ennemis. Il a puni des gens comme Deng Xiaoping en les accusant d'être des droitiers, puis il a lancé ce mouvement anti-droitier. Il n'avait sans doute pas le choix à l'époque, parce que les conflits politiques étaient très compliqués.
Mao, exactement, c'est qui? Mao a fait quoi exactement?
Mao had come in as a charismatic revolutionary leader, and his role in the Long March and the victory over the Kuomintang was epic. He was a guerrilla fighter. He was a leader. What he couldn't do was to run a country.
André Malraux, 1967.
Parmi les grandes figures que vous évoquez dans vos anti-mémoires, il y a Nehru, il y a Chou Enlai, il y a Mao Tse-tung. À travers les souvenirs de Yenan, ceux de la longue marche Il y a une question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que cet effort presque désespéré, cet effort poursuivi contre le monde entier, est-ce qu'il a vraiment aujourd'hui une valeur universelle ?
Lorsque je suis en Chine, j'ai le sentiment que psychologiquement, il y a des éléments qui ne sont pas les anciens éléments exotiques de la fameuse Chine des mandarins. Il y a des éléments qui ne peuvent être transposés nulle part. La révolution dite culturelle, car elle s'appelle en chinois révolution culturelle prolétarienne, et l'accent est sur prolétarien tout de même, a été extrêmement mal expliquée ici parce que, en règle générale, ceux qui ont vu n'ont pas été très instruits par ce qu'ils ont vu. Et ceux qui connaissaient la question pour avoir suivi le développement de la Chine, en France, sont extrêmement peu nombreux. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette manie d'employer toujours le mot culturel là-dedans ? Il semble que la culture n'ait rien à y voir. C'est pourtant pour une raison excessivement forte. C'est que, sans aucun doute, dans l'esprit de Mao, l'essentiel est il y a une individualisation en Chine qui est restée beaucoup trop forte. Nous ne pouvons faire la véritable épopée que dans une désindividualisation complète. Et j'appelle révolution culturelle ce qui consiste à détruire ce qui reste d'individus et ce qui, le cas échéant, avec n'importe quel révisionnisme, augmentera les caractères de l'individu. Mao dirait, il est faux de dire que si on donne des deux chevaux à tous les Chinois, révisionnisme, les Chinois deviendront pour autant plus proches des Russes et plus prêts de s'occuper de leur niveau de vie, etc. Pas du tout, dira-t-il. Si on arrive à créer un état d'esprit dans la Chine entière, semblable à celui de l'armée, eh bien, en définitive, nous pouvons donner les deux chevaux sans danger, car nous pouvons donner des motocyclettes à tous nos soldats.
Sui Tian Guo, on est dans votre atelier, dans la grande banlieue nord de Pékin. Vous avez utilisé une certaine image de Mao dans vos œuvres. Pourquoi avoir utilisé Mao et qui c'est Mao pour vous aujourd'hui ?
Je suis né dans les années 50 et j'ai vécu pendant 20 ans sous l'influence de Mao, ce qui a bien sûr eu un fort impact sur ma personnalité. Dans les années 90, j'ai commencé à réfléchir sur mes souvenirs d'alors.
Mais comment vous avez réutilisé justement cette influence qui vous a marqué dans les années 50?
La rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997 a provoqué beaucoup de questionnements en Chine. On a commencé à reconsidérer le chemin choisi par le Kuomintang et celui choisi par le Parti communiste. L'histoire de ces 100 dernières années a eu beaucoup d'influence sur moi. En créant la nouvelle Chine et une nouvelle façon de penser, Sun Yat-sen a provoqué des tensions. Et lorsque Deng Xiaoping est mort, personne n'a voulu analyser ces tensions. Moi, au contraire, je m'y suis intéressé. Ces tensions ont été provoquées par Sun Yat-sen, le père de la nouvelle Chine. Parce que le Kuomintang et le Parti communiste ont revendiqué son héritage. Chacun affirmant incarner l'esprit révolutionnaire. C'est pour cette raison que les deux parties ont imposé le port du costume. Mao a obligé 600 millions de Chinois à porter cette veste si célèbre.
Quand on regarde ces sculptures, ce sont des vestes d'une taille assez impressionnante. Le corps de Mao n'habite pas ce costume, mais pourtant il est présent. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de tête, mais on pense directement à Mao. Pourquoi ne pas avoir représenté Mao tout simplement ?
J'ai fait cette sculpture en 1997, au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Aujourd'hui, ce genre de symbole a été abandonné. C'est pour cette raison que cette sculpture n'est qu'un squelette. C'est creux à l'intérieur. En fait, En 1997, le Parti communiste a voulu faire croire que le socialisme allait prendre une nouvelle direction. L'économie se développait et la Chine s'ouvrait au monde. En 1997, ça faisait 20 ans que l'ère maoïste s'était achevée. Et si son influence était encore très forte, elle était creuse.
Je vous pose cette question parce que aujourd'hui, Mao, l'image de Mao est utilisée un peu partout, sur des t-shirts, sur des produits dérivés. On vend l'image de Mao dans les boutiques pour les touristes. Et puis les Chinois gardent des petites amulettes à l'effigie de Mao. Par exemple, les chauffeurs de taxi pour leur éviter d'avoir des accidents de voiture, par exemple. On a l'impression que les artistes chinois, comme vous, ont utilisé cette image pour désacraliser le personnage de Mao et pour revisiter une histoire et de la critiquer, cette histoire.
Je pense que y a deux choses différentes.
Il y a deux sortes de consommateurs d'objets relatifs à Mao. Il y a ceux qui sont dans la pure consommation, parce que la Chine est devenue très matérialiste et que les Chinois consomment beaucoup. Et puis, il y a les nostalgiques. Lorsque Deng Xiaoping a entamé les réformes économiques en 1979, il a promis aux Chinois qu'ils allaient tous en tirer des bénéfices. Mais après 30 ans de réforme, nous constatons que s'il y a des gens très riches, la plupart des Chinois restent relativement pauvres. Ces gens qui aujourd'hui expriment leur mécontentement à l'égard de ces réformes sont ceux qui expriment également leur nostalgie de l'époque de Mao. J'ai réalisé également une œuvre qui s'appelle Sleeping Mao, qui incarne en quelque sorte mes réflexions sur le maoïsme et ma revisitation de cette époque, alors que je n'étais qu'un enfant. Dans les années 60 et 70, au moment de la révolution culturelle, j'étais adolescent, et pour moi, Mao était un dieu. Il était plus sacré que Jésus, que Bouddha et que tous les autres dieux du monde. Mais après la période maoïste, les gens ont commencé à accuser Mao de tous les maux, parce qu'il avait été considéré comme un dieu, et qu'il était censé assumer toutes les responsabilités. Mais en fait, Mao n'était qu'un être humain, ce qui veut dire que tout le monde devait prendre une part de responsabilité dans ce qui s'était passé dans cette société. C'est ce que j'ai voulu exprimer dans cette œuvre, Sleeping Mao. À l'époque de Mao, il n'existait aucune image du leader en train de dormir, car il était supposé être un dieu. Et en le représentant en train de dormir, j'ai voulu exprimer le fait que tous les Chinois, moi y compris, devons comprendre que nous avons chacun notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé.
Aujourd'hui, Mao, ça devient un objet de travail artistique, commercial. C'est qui aujourd'hui pour vous Mao, après justement toutes ces réflexions que vous avez eues à travers vos créations?
Mes sentiments à son égard sont très conflictuels et très paradoxaux. Quand j'étais jeune, j'ai été éduqué dans l'amour de Mao et dans la loyauté envers lui. Mais depuis la fin des années 80, avec l'ouverture du pays et l'accès aux nouvelles technologies, nous prenons conscience de qui était réellement Mao. Il était obsédé par le pouvoir et voulait que tous les Chinois le vénèrent. Alors, rationnellement, je sais que je dois critiquer Mao, mais émotionnellement, je ressens une sorte de fidélité à son égard, une sorte d'adoration, un sentiment obscur qui m'empêche d'aller de l'avant.
Je crois que la biographie est une des biographies les plus extraordinaires du monde. D'ailleurs, vous savez qu'il le sait, il y a un des poèmes, n'est-ce pas, qui finit assez étrangement. Le chinois permet l'ironie très visible. Il fait un grand poème assez beau sur les grands conquérants de jadis, n'est-ce pas, et son dernier vers est « Mais regardez donc autour de vous ». Thank you.
Pantiayuan, le grouillant marché aux puces de Pékin situé à l'est du troisième périphérique de la ville, dans le district de Shaoyang. 48 500 mètres carrés d'antiquités et de chinoiseries en tout genre disposées dans un dédale d'allées spécialisées. Là le jade, ici les meubles, là-bas les objets relatifs à la période maoïste, tous y trouvent leur compte. Notre guide, Chen Xindong, sans doute le plus grand galeriste de Chine, premier ambassadeur en Occident, des artistes contemporains chinois les plus en vogue.
Combien
elle vend un buste de Mao ?
280 yuan, 30 euros la pièce. Celle avec les petites casquettes avec l'étoile. Sans l'étoile, c'est 260 yuan, un peu moins cher. Et Charles, c'est un petit Charles. C'est un Charles.
50
yuan.
Ça, c'est un Mao jeune.
Un Mao jeune. Avec un petit fleur. C'est combien de temps ? 100 yuan. C'est 12 euros. C'est kitsch.
搞屁话有这么大力的吗？都是赚几块钱，真的。你要这里95块钱，好不好？少拿那5块钱。
Elle peut faire encore un petit geste. 80 yuan, 100.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le côté
de cette？富有人我还开今朝，les grands héros c'est moi. Dans la vie contemporaine, tous les passés sont passés.
On fait des statues, mais on fait aussi des affiches, des badges. Si on prend là, par exemple...
Surtout, Mao mélangé avec... Devant, à côté de Mao, regarde, ça, c'est extraordinaire. Guanyi, Miss Guanyi avec Mao ensemble, Bouddha ensemble. C'est-à-dire, Mao, il est traité comme un Bouddha, maintenant. Un Bouddha contemporain. C'est vraiment une image extraordinaire.
Là, on voit des statues de Mao, mais pas que des statues de Mao. On voit aussi des scènes de la révolution culturelle. On fait du business aussi avec des images, des reproductions, des scènes les plus horribles de la révolution culturelle. On voit, par exemple, des gens qui se font humilier. Ici, on voit un garde rouge brandir le petit livre rouge. Une femme est agenouillée devant
lui. C'est un professeur qui a une dame à genoux. Et les gardes rouges qui les critiquent devant le grand public. Pour moi, c'est horrifiant. C'est horrifiant. Ouais.
Alors, elle est à une pancarte autour du cou. 1976, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ?
Fan Dong Xue Shi Quan Wei. C'est les professeurs espèrent contre la révolution. Alors, il faut les critiquer. Pour moi, c'est insupportable.
Et pourtant, ça se vend partout ici.
Il y a toujours, ouais. On a, c'est triste, on oublie une histoire dure si rapidement devant la folie économique quand même. C'est triste. Ça se vend pour l'instant encore. C'est pas sûr, ça va continuer à durer parce que les gens, moi, un petit garde rouge, j'étais garde rouge, mais plutôt dans l'idéologie, même j'étais chef. De la classe. Moi, j'ai toujours ce côté dans ma tête, Mao, quand même. J'ai vécu la révolution côté quand j'étais petit. Et comment ils sont étonnés, l'image de Mao Zedong, pour cette façon, cette âme, cette façon de critiquer l'époque. Fait et son de Mao, de la place Tiananmen. Mao, un dieu, devient un Mao Zedong comme tous les autres. C'est vrai, il a ce côté, un homme politique, il est intelligent, c'est un artiste, un poète. Mais quand même, c'est un homme, tout court, tout d'abord. Par rapport à il y a 10 ans, quand je vois ce genre d'objets, j'ai plus de mission.
Quand je compare le fonctionnement d'objets de Louis XIV à objets à l'époque de Mao,
Zai Chongwu.
Je crois, j'insiste là-dessus. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Ça montre une vie de l'histoire, de mémoire collective, qui est quelque chose quand même très important. Là, tout cet objet à l'époque de Mao, ça montre aussi, ouais, c'est le commerce, quoi, justement, qui est lié avec la nostalgie de maoïste. Alors, est-ce qu'on oubliait toute cette tragédie de grand bond en avant, réflexion culturelle? Oui, c'est que beaucoup de gens ne savaient pas. Ou bien, ils le savent de façon abstraite. Il n'y a que le chiffre. Il y a combien de morts? Ouais, tant de millions de morts pendant la grande famine. Il y a combien de morts? Dizaines de millions de morts pendant la révolution culturelle. C'est tout. On tourne les chiffres, ça ne suffit pas. Regarde en France, en Europe, dans le monde, sur la tragédie pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout sur les Juifs. Hein, toute cette concentration qui éliminait les Juifs, etc. On n'oublie pas parce qu'on organise régulièrement la manifestation là-dessus. Il y a combien de musées, d'expositions, de films, de dessins, de bandes dessinées dans le monde. Il y a plein, partout, avec les photos, avec le témoignage, le livre scolaire, le prof parle, ou bien obligé de parler de ça. Il y a la réflexion philosophique là-dessus, ça fait partie de grandes pages dans le livre de l'histoire. Oui, c'est très concret. Il y a le nom de temps, comment ils sont morts. En Chine, il n'y a pas tout cela. Il n'y a qu'un seul musée établi par un individu dans un coin pratiquement perdu. Très peu de films. Le film, voilà, la conférence extra, c'était toujours censuré. Maintenant, un peu moins. Voilà, ça, c'est explique. Il y a rarement oui, la photo amusante, quoi. Plus que la photo tragique sur la révolution culturelle. La photo, ça explique aussi hein, pourquoi ça marche, tout cet objet touristique, le t-shirt, etc. Parce que ça amusant. C'est notre passé stupide. On se moque de soi-même, les Chinois. À l'époque, on chantait, on tassait ensemble pour chanter les chansons révolutionnaires. Nous sommes ensemble avec mes amis, là. Parfois, on chantait les chansons à l'époque. Quand on chantait moitié, on rit. On éclate de rire. C'est une façon de se moquer de soi-même. On était tellement stupides à l'époque, tellement ridicules. Mais quand même, oui, en ce sens-là, on sent aujourd'hui c'est vraiment mieux. La Chine, cette dictature, absence de liberté, de démocratie, mais quand même, beaucoup mieux qu'à l'époque de Mao. Quand on chante, on sentait ça. On a conscience de soi, on est plus individualiste, on est plus indépendant, ou moins mentalement, même pas politiquement. On est plus libre, on peut se déplacer, on peut venir à Hong Kong, etc. Par rapport au monde, c'est rien à voir. Alors, quand on est relativement libre, on chante les chansons à l'époque, on rit. À l'école, on n'en sonne pas cette tragédie, parce que ça nuit l'image du Parti communiste. En plus, les Chinois, aujourd'hui, sont pressés. Ouais, pas le temps de réfléchir. La précarité se développe, on n'est pas très disponible pour discuter, réfléchir sur notre passé. Et puis, nous sommes dans une époque de télécommunication. Avec ça, il y a un philosophe israélien qui parle de société liquide. Ouais, tout s'écoule vite. On n'a plus le temps vraiment réfléchi sur l'avenir ni sur notre passé.
Si je lui en prends trois, il me fait un prix.
Il faut choisir déjà trois pièces que tu aimes.
Oui, prendre celle-là.
C'est 5 mètres de chien. On fait un petit tour, on revient.
150 yens, je demande.
Combien ?
150 pour les trois. Parce qu'ils vendent la pièce, 50 yuan la pièce. Trois pièces, 150.
Attends, je vais les prendre. Après.
100块钱怎么样？哎。
L'étranger qui arrive en Chine s'attend à trouver un peuple terne, soumis et crispé. Il est vite rassuré. La Chine rit et chante à pleine voix. La joie de vivre dans un monde nouveau, où la misère disparaît peu à peu, cette joie se traduit aussi facilement que le font les jeunes enfants du palais des pionniers de Shanghai. Musique et chant donnent un souffle vivifiant. Est-ce du folklore ? Est-ce une terrible réalité ?
Forward is very obscure. You cannot see the future.
Xin Junxin a passé le plus clair de son temps dans l'armée populaire de libération en tant que peintre des armées et directeur du musée national de la peinture militaire. Fonctionnaire d'État, il n'en reste pas moins un esprit libre, fan de Duchamp et des dadaïstes, de Rodin, de Munch ou encore de Hooper. Spécialiste de la peinture camouflage, Xin Junxin nous reçoit dans son atelier très branché de la Friche 798.
Alors, dans un livre consacré à Dashanze Art District, la Friche culturelle 798, on vous qualifie, Marc Abeles vous qualifie de peintre soldat. Ça vous convient ?
Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de peintures sur les soldats, sur l'armée. Et une bonne partie de ces peintures, c'était des œuvres commandées par le musée de l'armée. Pour montrer l'armée, pour montrer les soldats héros de l'armée populaire de Chine.
Mais aussi, une bonne partie, c'était pour moi-même, parce que j'ai aussi essayé de voir ces soldats comme des individus, des Chinois.
Ils ont aussi leur pensée, leur comme des êtres humains.
Donc,
ce nom, peintre soldat, si je suis d'accord avec ce nom ou pas, c'est pas très important. Ce qui est important, si j'ai vraiment mis une réflexion sur les êtres humains, sur les individus, c'est ça qui m'intéresse.
Alors j'imagine que quand vous faites vos peintures ici, et ce que vous faisiez en tant que peintre soldat, c'est pas du tout le même travail. J'imagine qu'il y a des sujets tabous quand on est peintre soldat. Par exemple, est-ce que vous avez utilisé parfois l'image de Mao dans vos peintures ?
当然就是说他们的一些博物馆定件或者是官方展览当中的一些作品，那么就是我的这种作品的思考的这种我的个性表达的太强。 Pour les expositions officielles, mes œuvres qui sont trop personnalisées, qui sont trop caractéristiques personnelles, ne peuvent pas être présentées. Par exemple, ces deux soldats qui font pipi devant l'urinoir, ça a été présenté en Occident dans des expositions à l'étranger, parce que le public occidental peut comprendre l'humour et l'ironie dans l'œuvre, mais comme le public chinois ne connaît pas bien Marcel Duchamp, il capte pas les messages dans ses œuvres, et ça peut pas être présenté dans une exposition officielle non plus. Et donc en général, pour les expositions officielles, j'essaye de jouer dans le langage artistique.
ou la forme, mais pas le sujet, mais pas le contenu. Et je ne veux pas non plus mettre la couleur militaire sur la face de mort.
Parce que vous avez également utilisé l'image de Mao dans vos peintures en utilisant le même procédé de camouflage. Vous pouvez me parler de cette œuvre ?
Au début, j'ai fait une série d'œuvres de Mao, mais c'est tout à fait normal. C'est pour le musée, pour les expositions officielles. Et après, j'ai aussi essayé d'utiliser l'image de Mao, mais de manière l'art contemporain. Mais tout de suite, je me suis rendu compte j'ai découvert que beaucoup d'artistes chinois utilisent l'image de Mao pour détourner, pour critiquer ou se moquer. Et beaucoup d'entre eux, je trouve, la réflexion n'est pas assez profonde. Parfois, ils utilisent seulement l'image de Mao et c'est tout. Et parfois, c'est comme un peu l'art pop. Seulement détourner l'image de mort en le faisant un élément de consommation et c'est tout.
Je
pense
qu'il
y en a trop et c'est pour ça que j'ai arrêté ce projet.
On est devant une statue où visiblement le personnage de Mao est représenté trois fois, en jaune, en rouge, en vert. Mais c'est pas la tête de Mao qu'on voit, c'est une tête de dragon. Qu'est-ce qu'elle raconte cette œuvre selon vous ?
Cette œuvre, il y en a beaucoup en Chine et ce sont plutôt des successeurs du concept de Sui Jian créé par Sui Jianguo. On peut dire que ces artistes ont volé l'idée originale de Sui Jianguo. Et pour lui, on ne peut pas appeler ça une œuvre d'art. Parce qu'aujourd'hui en Chine, la différence entre les œuvres d'art et les œuvres artisanales est de plus en plus ambiguë. Les œuvres des frères Gao ou de Sui Jianguo sont des œuvres artistiques d'art. Et ça, je dirais plutôt des œuvres
artisanales.
Et qu'est-ce qu'elle dit ? Pourquoi on a remplacé la tête de Mao par une tête de dragon ?
Si
on parle uniquement précisément de cette sculpture, la tête de Mao, le dragon, c'est un symbole de la Chine, de la culture chinoise traditionnelle ancienne. Et le costume de Mao représente l'idéologie maoïste, représente la répression, on peut dire la répression au contrôle du gouvernement sur le peuple chinois. Et donc la tradition, ce contrôle maoïste, sont les deux plus lourdeurs des Chinois.
Et alors juste à côté, peut-être une statue qui incarne un peu l'endroit où nous sommes, Dashanze Art District. On y voit donc une statue rouge avec deux ouvriers qui tiennent chacun leur outil de travail dans la main et dans l'autre main portent une liasse de billets avec l'effigie de Mao. C'est ça le marché de l'art contemporain et, aujourd'hui en Chine. C'est à la fois et Dashanze Art District qui incarne un peu ce marché de l'art contemporain. C'est à la fois les ouvriers en bleu de chauffe et la glorification de l'argent du billet de banque sur lequel Mao est omniprésent.
Parce que
Le langage et la forme de cette œuvre vient du concept de Wang Guangyi, de l'artiste Wang Guangyi. C'est lui qui a utilisé pour la première fois les images des ouvriers et un peu joué le langage de l'art pop. Donc lui, il est le numéro un de l'art pop en Chine. Donc c'est l'artiste qui a créé cette sculpture, a volé son idée.
带动了中国当代艺术的这种发展，且中国当代艺术的这种商业化的发展的速度。
Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, l'art contemporain chinois s'est développé avec l'import du capitalisme en Chine.
不像我们刚开始艺术家早期进入的那种原创的一种。
Et, mais aussi ça c'est une des conséquences de l'idéologie du parti, c'est-à-dire industrialiser la culture.
Donc Mao aujourd'hui, ça incarne ce nouveau capitalisme chinois, ce capitalisme chinois.
对，就是现在其实。
Aujourd'hui, Mao incarne plusieurs choses. Ici, à Dashanzi, Mao incarne le capitalisme, le nouveau capitalisme en Chine. Mais si on va à la campagne et dans les régions plus pauvres et plus lointaines, les habitants locaux respectent toujours Mao comme un dieu, comme un dieu. Les habitants locaux sont toujours très religieux, donc on voit en Chine des différents niveaux de culte de Mao.
C'est un totem, c'est purement un totem, c'est rien d'autre. Personne ne veut revenir à l'époque de Mao, mais c'est devenu le symbole de la Chine. Et ça, c'est quand même un gros problème, parce qu'on imagine mal que, je veux dire, en Allemagne, on ait la figure d'Hitler sur les billets de banque. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas et qu'on ne peut pas faire le travail de critique nécessaire. Et tant qu'on est dans cette situation, je pense que cette accumulation d'images auxquelles les gens d'une certaine façon s'identifient, même si ça ne veut pas dire qu'ils sont maoïstes, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui bloque l'évolution historique.
Il y a un aspect sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense véritablement.
Michel Bonin et Jean-Philippe Béja incarnent à eux deux tout un pan de la sinologie contemporaine à la frontière de la militance. N'en déplaise aux sino-béats, leurs propos tranchent avec une vision très occidentale et ethnocentrique de la Chine, qui consisterait à dire que depuis les JO de Pékin en 2008, la Chine est un pays normal et qu'elle serait même en marche vers la démocratie, comme si la libéralisation économique annonçait la libéralisation politique.
Le fait que Mao soit sur les billets de banque et le fait qu'on le commercialise sont deux choses différentes. Mao sur les billets de banque, c'est une décision du pouvoir, etc. Et là-dessus, tu as tout à fait raison. En même temps, la commercialisation et la transformation en icône de Mao, en icône pop, c'est une telle trahison. C'est vraiment le faire se retourner dans sa tombe. Et ça, c'est une chose qui, dans une certaine mesure, neutralise la pensée de Mao et la nocivité de Mao. Je suis d'accord avec toi sur l'idée sur Mao et Hitler, mais c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut voir. La commercialisation, qui montre un peu le symbole de la Chine moderne, est en même temps, c'est exactement le contraire de ce qu'il voulait. Je veux dire, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi bien tenir à l'esprit. Donc c'est vraiment deux choses. Et en même temps, ça correspond à autre chose, qui est un aspect, c'est la déification aussi de Mao, qui est aussi une façon de l'évacuer. C'est un truc qui est classique dans l'histoire chinoise. Et en 93, les petits portraits de Mao qui te protègent, qui protégeaient les chauffeurs de bus, bien sûr, d'un côté, c'est une manière d'éviter la réflexion sur l'histoire, et là-dessus, je suis entièrement d'accord, mais en même temps, c'est une façon de complètement retourner le message de Mao. C'est le faire aussi retourner dans sa tombe. Donc je crois que c'est vraiment, comme il disait lui-même, un se divise en deux.
Ben nous, en attendant, on va aller dîner dans un restaurant à thème, puisque le thème de ce restaurant, c'est la révolution culturelle. Zhao Long, vous êtes une des responsables de ce restaurant ici à Changsha, capitale provinciale du Henan. C'est quoi ce restaurant? Il est assez étonnant, finalement. On retourne à l'époque de Mao.
Ah, 那我首先介绍一下我们饭店的一个历史吧。
Laissez-moi vous raconter l'histoire du restaurant de la communauté du peuple de Jiannan. Il a été créé en 1998. C'était l'ancienne cantine publique. Quand nous l'avons repris, en 1998, c'est devenu immédiatement un lieu très très populaire. À cette époque, il a eu 60 restaurants comme le nôtre qui se sont ouverts à Changsha. Ce genre de restaurant est très populaire en Chine. Ça veut dire que notre président Mao manque aux Chinois et que nous le vénérons toujours.
On mange, on écoute de la musique révolutionnaire. On mange et on s'instruit en même temps.
Oui, et même dans la cuisine que nous faisons, nous transmettons la culture rouge. Nous proposons les plats favoris du président Mao, l'estomac de porc gras, le tofu qui sent fort, et aussi quelques recettes de poisson. Nous combinons culture et cuisine délicieuse. C'est pour ça que notre business est si attractif et si populaire.
Alors quand on est arrivé tout à l'heure, avant de dîner, on a été accueilli par une dame qui nous a dit « Bienvenue ». Elle a appelé ça en anglais Red Economy, l'économie rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'économie fait aussi partie de la culture rouge. Les gens achètent des badges, des t-shirts et toutes sortes d'objets. Ils pensent que c'est très tendance de porter des vêtements avec le portrait de Mao.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Mao... On en garde l'héritage, mais aussi ça sert à faire de l'argent, à gagner beaucoup d'argent.
Oui, on peut dire ça comme ça. Je pense que si on peut faire de l'argent en utilisant cet héritage, c'est ce que le président Mao aurait voulu voir. J'en suis sûre.
Si, si.
Non, nous n'en avons pas à vendre. Mais vous venez de me donner une bonne idée de business. Vendre ce genre de choses dans le futur, pourquoi pas?
La Chine à l'ombre de Mao, le Mao Business. Merci à Jean-Philippe Béja, à Michel Bonin, à Tsai Chungguo. Merci également à Gao Tian, Xin Chen Dong, Xin Junqin, Xu Tianguo.
Je vais d'abord regarder et si j'en trouve une que j'aime, je l'achèterai. L'argent n'est pas un problème. Je ne connais pas les prix du marché, mais je pense que 1000 euros est un prix raisonnable. Pour les hommes d'affaires chinois, dépenser beaucoup d'argent pour une statue de Mao qu'ils vénèrent, c'est normal. Pour Bouddha, c'est pareil.
Merci aussi à Zhao Zhongkun, à Yang Yang et Orange Chen. Merci enfin aux voix de France Culture et de RFI pour les traductions. Le Mao Business, un documentaire d'Anne Franchini, Jean-Michel Coqui et Alain Lefkovitch. Dans un instant, suite et fin de cette première étape de notre grande traversée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao, avec un débat enregistré dans ce studio improvisé dans un appartement pékinois, avec aujourd'hui la question des gardes rouges, gigantesque mouvement de masse comprenant en grande partie des étudiants et des lycéens, dont Mao Tse-tung s'est servi pour poursuivre le processus de la révolution culturelle. Alors